Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Ici Sébastien Daune, bibliste, et un peu enrhumé cette semaine. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Et oui, nous osons nous aventurer dans les pages moins connues, mais très intéressantes de la Bible. Merci de s'ouvrir à voir la Bible d'une autre façon. Parfois, c'est un peu déstabilisant, mais je vous assure qu'au bout du compte, c'est passionnant. Aujourd'hui, on va faire une transition entre le monde de l'Ancien Testament qu'on explore depuis déjà plusieurs semaines pour entrer dans celui du Nouveau Testament. Pour faire cette transition, d'abord, on va regarder du côté de l'Ancien Testament quelques règles ou lois qui nous apparaissent aujourd'hui assez saugrenues et qu'on aurait de la difficulté à interpréter aujourd'hui. Puis, en deuxième partie d'émission, on va s'attarder à un miracle de Jésus, mais pas n'importe lequel. Savez-vous que Jésus a dû se reprendre à deux fois pour réussir un miracle? Ça marche pas tout le temps. Et bon, on va essayer de regarder ce récit-là. Bonne écoute! Pour commencer, j'aime vous donner la parole. Voici un des courriels reçus suite à l'émission traitant de David et Bethsabée, où on a vu David commettre à la fois un adultère et même un meurtre. On avait entre autres parlé du rapport entre le pardon et la punition de Dieu. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, le texte indiquait que Dieu a fait mourir le premier enfant de David et Bethsabée, c'était la conséquence de tout ça, mais après ça, il indique qu'il va aimer le deuxième, qui sera le roi Salomon, et que la lignée de David va être établie à jamais. Alors, il y avait d'une part le pardon et la punition. Voici la lettre. « Bonjour, Monsieur Daune. J'apprécie beaucoup votre émission et vos commentaires. Vous avez répondu à certaines de mes interrogations. » J'aurais un commentaire à propos de David et de sa faute, à propos de ce que Dieu pardonne et qui punit. Ça me rappelle un peu ma question de petite fille. Mais si Dieu est infiniment bon, comment est-ce qu'il peut y avoir un enfer? Et ma mère de répondre, il est infiniment bon, mais aussi infiniment juste. De quoi me clouer le bec, mais me laisser sur une insatisfaction profonde et une peur qui m'est restée collée au corps jusqu'à mes 40 ans. Je suis plutôt du type à penser que nous allons tous être sauvés, tous. Nous sommes assez bêtes pour refuser Dieu, mais Dieu, dans sa toute-puissance d'amour, ne sera tout simplement pas capable de nous rejeter. Il voudrait simplement faire partie de nos vies dès maintenant. C'est ça le royaume, maintenant, comme Jésus en parlait. Dieu maintenant dans nos vies, avec la joie qui vient avec. Gilles Vigneault l'a dit dans sa chanson, « Le temps qu'on passe à dire « je t'aime » est le seul qui reste à la fin de nos vies. » Pour en revenir à David, je ne suis pas sûr que Dieu l'ait puni. Peut-être que l'enfant est mort parce que les enfants mouraient plus que maintenant. Ces femmes ont été prises par d'autres peut-être parce que le mauvais exemple de la faute de David a déteint sur les autres. Quand je parlais de la conséquence de ses actes, c'est aussi ça. Le péché fait tache et c'est aussi pour ça que c'est terrible. Puis ceux qui ont écrit le texte ont ramené ça à une punition de Dieu pour faire la morale de l'histoire. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et c'est signé Dr. Ève de la Mirande. Eh bien, Ève, j'avoue que je suis bien d'accord avec vous. J'espère, moi aussi, que Dieu sauve tout le monde. Et vous avez raison, le royaume, c'est d'abord et avant tout ici et maintenant qu'on peut le bâtir. Puis pour David, en effet, c'est clair que le rédacteur, à la fin, veut nous présenter une espèce de morale de l'histoire qui est tout simplement de ne pas faire ce que David a fait. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire et j'invite tous les auditeurs, auditrices à faire comme elle et de nous écrire à auditoire@radiovm pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions. Connaissez-vous des lois ou des règles bizarres transmises par la Bible? Bien, dans quelques instants, je vous révèle celle que je préfère. L'Ancien Testament contient des centaines de prescriptions à suivre. Selon le judaïsme rabbinique, il y aurait 613 commandements. La plupart sont assez compréhensibles et peuvent même contribuer à une meilleure qualité de vie. Mais il y a certaines de ces prescriptions-là, quand on les lit aujourd'hui, ça nous semble insolite et même des fois ça nous semble même dépourvu de sens. Ça nous demande une recherche pour essayer de découvrir dans quel contexte ça a été élaboré. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors, bon, aujourd'hui, je vous propose un espèce de florilège des 7 règles bibliques que je trouve les plus savoureuses et un petit peu absurdes. Première règle, elle vient du livre de Coëlette. Je le cite, « Que tes vêtements soient toujours blancs. » Coëlette, chapitre 9, verset 8. Pourquoi toujours s'habiller en blanc? Le savez-vous? Bien, quand on regarde le contexte du livre de Coëlette, il expose dans un passage tout ce qu'il faut pour jouir de la vie, des plaisirs qui sont là comme des dons de Dieu. Et les vêtements blancs sont comme symbole de la joie. Bon, par ailleurs, j'avoue que toujours s'habiller en blanc, ça peut devenir un peu monotone et c'est salissant. Deuxième règle. La deuxième nous vient du livre de Lévitique. Je la cite. Ne porte pas de vêtements en étoffe hybride tissés de 2 fibres différentes. Alors ça, c'est Lévitique, chapitre 19, verset 19. Pourquoi? Pourquoi ne porter que des vêtements tout laine ou tout coton ou tout lin? Ben, c'est parce que, dans la Bible, les mélanges apparaissent toujours comme des manifestations du désordre. C'est pas bon, le mélange, dans la Bible. La création de Dieu, quand on regarde le livre de la Genèse, c'est toujours de mettre de l'ordre dans ce qui était au départ confus. Et dans la même ligne de pensée, ben, le livre du Lévitique interdit toutes sortes d'autres mélanges. Par exemple, l'accouplement d'espèces animales différentes, des champs semés par des graines diverses, des labours menés avec 2 espèces animales différentes. Tout ça, c'est interdit parce que c'est amener du mélange au lieu d'amener un ordre dans tout ça. Si ça vous intéresse aujourd'hui, là, si ça vous intéresse de suivre ce règlement-là, d'avoir des vêtements faits d'une seule étoffe seulement, ben, il y a des inspecteurs juifs orthodoxes qui sont chargés de ça. C'est leur emploi, de vérifier les vêtements afin qu'ils respectent cette loi-là. Et ils vont pas juste regarder l'étiquette en arrière, ils vont prendre le tissu sous la loupe pour voir vraiment si c'est vraiment fait d'une seule étoffe. Alors, ça existe vraiment. Vous pouvez les trouver sur Internet sans problème. Troisième règle de l'Ancien Testament que je trouve assez particulière. Encore une fois, du livre du Lévitique. Livre du Lévitique, il faut dire, en passant, c'est un livre qui contient plein de lois. C'est fait par ceux qui, justement, s'occupaient des lois à cette époque-là. Et des fois, ils écrivent des choses, nous, on se pose des questions parce qu'on n'est vraiment plus dans ce monde-là. Alors, je vous le cite, cette règle-ci. « Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne supprime pas ta barbe sur les côtés. » Lévitique, chapitre 19, verset 27. Pourquoi est-ce que la Bible s'inquiète de la façon dont on coupe notre barbe ou nos cheveux? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là va donner la raison pourquoi on voit des Juifs hassidiques avec des longues barbes et des cheveux en boutin sur le bord des oreilles. Les favoris qui descendent en bas très, très long. On voit ça beaucoup ici à Montréal. Eh bien, c'est poursuivre cette règle-là. Dans le livre du Lévitique, chapitre 19, pour être sûr de ne pas aller contre ça, ben, ils ne vont pas tailler le bord de leur chevelure, ni supprimer la barbe sur les côtés. Bon, ça vient d'où ça? On se doute, ce n'est pas confirmé, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que cette loi interdisait cette coupe-là parce que ça faisait probablement partie d'un rituel païen de deuil où justement on se coupait les côtés de la barbe et le bord des cheveux. Alors c'était probablement un rituel païen de deuil alors qu'il était associé à d'autres divinités. Et pour être sûr que le peuple de la Bible ne fasse pas ce genre de rituel-là, on enlève ça complètement. Le livre du Lévitique est aussi bien reconnu pour toutes sortes de règles concernant la pureté. Et ça, c'en est une. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça assez particulier. Alors, c'est ma 4e règle d'une liste de 7. Je vous la cite. Quand une femme est atteinte d'un écoulement, que du sang s'écoule de ses organes, elle est pour 7 jours dans son indisposition et quiconque la touche est impur jusqu'au soir. Lévitique, chapitre 15, verset 19. Bon, dans beaucoup de sociétés primitives, les règles des femmes s'étaient vues comme une impureté. On ne comprenait pas tout à fait qu'est-ce qui se passait, le sang c'était important, c'était le symbole de la vie, et ça provoquait une sorte d'angoisse devant ce sang-là qui coule apparemment sans raison. Et chez les Hébreux, bon, je viens de le dire, le sang c'est le symbole de la vie qui est donné par Dieu. Puis tout ce qui touche à la fécondité, à la reproduction, ça possède aussi un caractère sacré, mystérieux. On ne comprend pas tout qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Même aujourd'hui, je dois avouer que moi-même, je ne comprends pas tout, mais à cette époque-là, c'est encore plus un mystère. Puis, on dit donc dans cette règle-là qu'étaient impurs tous ceux qui touchaient la femme pendant cette période, pendant qu'elle avait ses règles. Donc la femme, elle aussi, elle l'était impure, et tous ceux qui la touchaient. Mais si on continue à lire le texte un petit peu plus loin, ça s'étend encore plus loin. Il ne faut pas se coucher dans un lit ou s'asseoir sur un siège où une femme qui avait ses règles s'était assise au préalable. Donc, pour respecter cette loi-là, il fallait s'abstenir de tout contact physique avec une femme lorsqu'elle a des règles. Et c'est pour ça que dans le temps de la Bible, il y avait une tente spéciale pour les femmes impures. Alors, c'est du clan. Alors, il allait là, justement, pour que les autres puissent garder leur pureté. Un petit mot sur la pureté. C'est pas du tout à prendre comme péché. Okay? C'est pas du tout la même chose. C'est pas un péché que ces femmes-là commettent. L'impureté, c'est juste qu'ils sont plus en état d'offrir un sacrifice à Dieu. Ils peuvent plus communiquer à Dieu à ce moment-là. Il va falloir qu'ils passent par le processus pour se purifier avant de pouvoir faire ces sacrifices-là et d'entrer en lien avec Dieu. Donc, c'est pas à voir du tout comme un péché, là. Mais c'est ça, c'est une impureté. Et on peut avouer que ça pourrait être assez complexe aujourd'hui d'essayer de suivre cette règle-là. Imaginez, vous assurer que tous les sièges sur lesquels vous vous asseyez, il n'y a pas une femme qui a eu ses règles qui s'est assise dessus préalablement. Il faudrait presque toujours s'apporter notre propre chaise avec nous. Et ne pas entrer en contact avec quelqu'un qui a ses règles, on ne le sait pas. Comment quand on va pour avoir la monnaie au restaurant puis qu'elle met ça dans notre main, ça ne marche pas. Essayer de suivre ça à la lettre aujourd'hui, ça serait très, très, très complexe. Et d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, j'ai lu un livre fort intéressant à ce sujet qui est de A.J. Jacobs, qui est en anglais, mais qui est aussi traduit en français. En français, ça s'appelle « L'année où j'ai vécu selon la Bible ». Et cette personne-là, A.J. Jacobs, essaye de vivre ces règles-là d'une façon littérale aujourd'hui. Et il voit ça, on le voit comment ça peut être difficile d'essayer de suivre cette règle qui est assez absurde pour notre vie d'aujourd'hui. Bon. On passe à la prochaine, cinquième règle, toujours du livre du Lévitique. Ne vous faites pas dessiner de tatouage. Lévitique, chapitre 19, verset 28. Première fois que j'ai lu ça, j'étais très surpris. J'avais aucune idée que la Bible avait un mot à dire sur ça. C'est quand même quelque chose qui... Bon, on parle pas de ça à l'Église aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on proscrit ces tatouages-là? Probablement parce que souvent, ça représentait d'autres divinités autre que Yahvé, le Dieu de la Bible. Puis, si on retourne aux 10 commandements, qui sont les lois les plus importantes pour le peuple de la Bible, bien, on interdit, dès le début, on interdit les représentations de tout ce qui est sur le ciel et sur la terre. Donc, les tatouages, c'est contradictoire à cette loi du décalogue des 10 commandements. Alors, c'est donc normal qu'on interdit de se faire dessiner sur la peau si on n'a pas le droit de dessiner ailleurs non plus. Il paraîtrait que ça serait aussi un signe distinctif des prostituées de l'époque. Mais ça, j'ai pas eu le temps de vérifier comme il faut, alors prenez ça avec un bémol. Mais toujours est-il que, si vous voulez vivre la Bible de façon littérale, il faut éviter de se faire tatouer. Sixième règle. Ça vient du livre du Deutéronome. Une femme ne portera pas de vêtements d'homme, un homme ne s'habillera pas avec un manteau de femme, car quiconque agit ainsi est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. D'où vient cette interdiction des travestissements? Bon, peut-être que c'était un usage d'un culte cananéen, d'un autre dieu, peut-être. Mais je pense que c'est plutôt ce qu'on a parlé précédemment. L'ordre est très important dans la Bible. C'est pas permis de confondre l'apparence d'un homme et celle d'une femme. Et encore aujourd'hui, il y a des répercussions de ça. L'année passée, il y a une journaliste au Soudan, Luba Hussein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui a encouru 40 coups de fouet pour avoir porté un pantalon, qui est un vêtement d'homme, en public. Et la loi islamique était contre ça. Alors, elle a été condamnée, elle a reçu ces 40 coups de fouet-là. Et ça nous ramène, ça nous rappelle qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des relents de cette mentalité qui datent d'une certaine époque. Alors, on peut encore retrouver ça. Finalement, dernière règle dans mes top 7 règles bizarres de l'Ancien Testament, ça vient du livre du Deutéronome encore une fois. Lorsqu'un homme et son frère s'empoignent, et je dois vous avouer que c'est ma préférée, alors c'est assez particulier, on écoute ça. Lorsqu'un homme et son frère s'empoignent et que la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main de son adversaire, si elle avance la main et saisit les parties honteuses de celui-ci, tu couperas la main à cette femme. tu ne t'attendriras pas. » Deutéronome, chapitre 25, les versets 11 à 12. Je vous avoue que c'est dur de ne pas rire en lisant ça, et c'est particulièrement insolite parce qu'on est en droit de se demander comment ça se fait que ça se retrouve dans la Bible, ça. Et moi, je me dis que si on a pris la peine de l'écrire, de transmettre, c'est que la chose a dû se présenter. Ça a dû arriver au moins une reprise, peut-être plus. Et bon, j'avoue que je comprends que les hommes de la Bible ne voulaient pas se faire prendre les parties honteuses par une femme dans un combat contre un adversaire, mais quand même, on peut se demander qu'est-ce que ça fait dans le texte biblique. Par ailleurs, bon, je n'ai pas trouvé d'explication particulière sur ces versets-là, mais c'est quand même là. Et en tant qu'homme, je suis content de savoir que la Bible me donne l'assurance que ça ne m'arrivera pas si on suit tous les règlements de la Bible. Tout ça, pourquoi? On voit à travers toutes ces règles-là qu'il y a des choses qui nous paraissent très bizarres. On pourrait y ajouter d'autres lois, il y en a plusieurs autres. Tout ce qui concerne les sacrifices d'animaux, on ne fait plus ça aujourd'hui, ou les normes sur l'alimentation, il y a des choses qui nous paraissent très étranges là-dedans aussi. Il y a certains chrétiens, il y a plusieurs juifs qui essayent encore aujourd'hui de suivre ces règles-là. Mais souvent, ils ne vont pas comprendre les fondements de ces règles-là. Ça vient d'où? Comment ça se fait qu'on continue à les appliquer? Et bon, ils se disent que Dieu doit avoir ses raisons, puis ils appliquent ce qu'ils savent. Je vous l'ai déjà mentionné, je vous le redis, si l'application de ces règles-là vous intéresse, allez lire A.J. Jacobs, l'année où j'ai vécu la Bible. En anglais, c'est Living Biblically. C'est un juif non pratiquant, mais qui a pris le pari d'essayer de suivre les prescriptions de la Bible à la lettre pendant un an. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. La grande majorité des chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le même souci de suivre les multiples règles qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Savez-vous pourquoi? Bien, moi, je pense que ça a commencé avec Paul et Pierre, dans le temps des Actes des Apôtres, ont eu un grand débat sur la circoncision. C'est de savoir, les nouveaux chrétiens qui étaient d'origine grecque, qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas circoncis, devaient-ils être circoncis pour pouvoir devenir chrétiens? Et à la fin du compte, c'est Paul qui a gagné et non, il n'était pas obligé de se faire circoncire. Donc, c'était une application pour montrer qu'il ne faut pas nécessairement suivre toutes les lois juives pour devenir chrétien. On peut être chrétien, peu importe l'origine dont on a, puis on n'a pas besoin de tout appliquer ce qui était là avant. Par contre, il y a certaines règles morales, surtout de l'Ancien Testament, qui restent vraies. Comme par exemple les 10 commandements, moi je crois qu'ils n'ont rien perdu de leur pertinence. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous de faire votre choix et de me dire qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'on suit les règles de l'Ancien Testament ou pas? Pourquoi? Après quelques notes de musique, on va finir par plonger dans le Nouveau Testament. Ça fait longtemps qu'on parle de l'Ancien. Et pas avec n'importe quoi, on va y aller avec le miracle raté de Jésus. Les lecteurs et lectrices des évangiles peuvent avoir l'impression que Jésus fait beaucoup de miracles, de guérisons, puis c'est toujours instantané, sans trop d'efforts, il paraît vraiment en contrôle. Pourtant, avec le récit qui vient, on va découvrir que parfois les gestes et les paroles de Jésus ne sont pas toujours suivis de l'effet qui est voulu. Je vous lis ce court récit qui est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26. Puis on verra au cours des émissions suivantes que souvent l'évangile de Marc a des récits qui sont un petit peu particuliers comparés à ceux des autres évangiles. Ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il dit « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas dans le village. » Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26. Je trouve qu'il y a deux choses étonnantes dans ce récit-là. D'une part, pour nous, l'utilisation de la salive, c'est assez particulier. Et d'autre part, c'est les deux temps dans la guérison. Ça ne s'est pas fait du premier coup. Comment ça se fait? Bon, premièrement, pour la salive, ça peut nous sembler un peu dégoûtant au regard des règles modernes d'hygiène, mais dans l'Évangile de Marc, on voit Jésus qui va opérer aussi une autre guérison en plaçant ses doigts dans les oreilles d'un sourd-muet, en crachant et en utilisant sa langue. Ça, c'est chapitre 7, versets 32 à 37. Donc, on voit, c'est quelque chose que Jésus fait à quelques reprises dans les Évangiles. Puis, dans l'Antiquité, on attribuait à la salive certaines vertus curatives. On pouvait se servir de ça pour essayer de guérir. Et Jésus l'utilise, comme d'autres guérisseurs de son époque pouvaient le faire. Mais là, il donne à ce geste-là une efficacité miraculeuse. Par contre, on l'a vu, ça ne s'est pas fait tout de suite. Pourquoi est-ce que cette guérison-là se fait en deux temps? Au premier contact, l'aveugle ouvre bien les yeux, mais sa vision semble rester floue. Le miracle ne fonctionne pas comme il faut. Pour l'aveugle, on l'a vu, là, les personnes ressemblent à des arbres qui marchent. Des arbres qui marchent, c'est pas grand-chose. Puis même le texte, si on regardait le texte en grec, ça serait, c'est des mots mis un après l'autre, sans article, ça ne fait pas de cohérence. Même le texte grec ne fait pas de cohérence. Alors, l'homme ne voit pas clair. Le récit de cette guérison lente se fait en deux étapes. Puis, moi, je pense que, d'une part, ça peut avoir l'effet de nous faire découvrir un Jésus peut-être plus humain, plus proche de nous, parce que bon, ça n'a pas marché du premier coup, nous aussi ça nous arrive. Mais il y a une signification symbolique qui est beaucoup plus importante. Dans l'ensemble de l'Évangile de Marc, si on lit du début à la fin, bien, ce récit-là qu'on vient de lire arrive à peu près au milieu. Puis, ça passe tout de suite après un passage qui vient de dire que les disciples n'ont absolument rien compris. Souvent, dans l'Évangile de Marc, les disciples ne comprennent rien. Mais là, ça vient juste d'arriver, juste avant ce récit-là. Et Jésus vient de leur dire, en citant les prophètes Jérémie et Ézéchiel, « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. » C'est Marc, chapitre 8, verset 18. Puis, tout de suite après la guérison de l'aveugle, Marc va placer la fameuse profession de Pierre où Jésus pose la question « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre va prendre la parole et va dire « Tu es le Christ. » Chapitre 8, verset 29. Alors, le récit de la guérison de l'aveugle agit comme une espèce de plaque tournante dans la foi des disciples. Ça parle des efforts que Jésus doit faire pour ouvrir les yeux des disciples afin qu'ils voient plus clair et comprennent qui il est. Alors, les disciples, avant ce récit-là, ne voyaient rien, ne comprenaient pas, et après, ils peuvent voir, ils peuvent comprendre. L'aveuglement, c'est souvent utilisé dans les évangiles comme une métaphore, comme une image de l'incompréhension. Puis on l'a encore aujourd'hui, même en français. Voir, c'est opérer le discernement qu'il faut pour comprendre. Puis moi, je pense que la visée profonde de ce récit-là, c'est que tous, les disciples, et même nous aussi, les lecteurs, on puisse voir et comprendre l'identité de Jésus. C'est qui Jésus? Et si cet épisode met en lumière la difficulté et le cheminement nécessaire aux disciples pour comprendre qui est Jésus, il joue encore le même rôle pour nous aujourd'hui, qui relisons ces textes-là. Petite anecdote dans notre vie, dans ma vie à moi personnelle, pour essayer d'éclairer tout ça. Je travaille dans une école secondaire, le Collège Saint-Jean-Vianney, et à chaque début d'année, les professeurs demandent aux élèves de répondre par écrit à plusieurs questions fondamentales. Qu'est-ce qu'un homme pour toi, etc. Et à la fin du secondaire, ils vont pouvoir voir l'évolution de leurs réponses d'une année à l'autre. Et une des questions qui est posée, c'est « Pour toi, qui est Jésus? » Puis en secondaire 1, presque tout le monde écrit « Jésus, c'est le Fils de Dieu ». Puis après les années, les réponses deviennent plus complexes. Il y a des nuances qui sont apportées. Et puis il y a plusieurs qui finissent par remettre en question la divinité de Jésus. Mais c'est la même chose au cours d'une vie. Grâce à ce qui nous a été transmis par nos parents, notre éducation, nos lectures, nos réflexions, surtout nos expériences, on évolue dans la compréhension de l'identité de Jésus. Qui est Jésus pour moi aujourd'hui? C'est pas la même réponse qu'il y a 10 ans, 15 ans. Le chemin de la foi ressemble souvent à une espèce de sentier en forêt avec bien des détours, beaucoup plus qu'à une autoroute qui est droite, là. Et le récit qu'on a lu, ça nous rappelle que la foi, c'est pas facile. Il faut la plupart du temps plus qu'une occasion pour reconnaître Dieu à l'œuvre dans notre vie. Il nous rappelle aussi que Jésus est prêt à faire ce qu'il faut pour éclairer notre chemin, quitte à répéter un miracle une deuxième fois pour que ça fonctionne. J'espère que vous avez apprécié ce premier récit du Nouveau Testament sur la double guérison. C'est le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que je ne vous ai pas trop scandalisé en parlant des règles saugrenues dans l'Ancien Testament et du miracle raté de Jésus. Puis, si au contraire vous avez apprécié ça, je vous suggère le livre que j'ai écrit qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour nous écrire. On prend le temps au début de chaque émission d'en lire une ou deux. Vous pouvez nous rejoindre, le plus facile c'est par le courriel auditoire@radiovm.com, mais aussi par courrier ou téléphone au numéro habituel de la station. Lors de la prochaine émission, même si on n'est pas dans le temps de Noël, on va quand même parler de la naissance de Jésus. Saviez-vous que les récits de Matthieu et de Luc, les deux seuls évangélistes qui parlent de la naissance de Jésus, racontent l'événement de façon mais complètement différente? Qu'est-ce qu'il en est de ça? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. En terminant, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. Merci également à Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine!